When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Oui, ils veulent acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes.
Bienvenue dans la bulle immobilière.
Jusqu'à 16h.
La bulle, ça se perce pas facilement.
Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9.
La bulle, c'est fragile. La bulle.
C'est la bulle immobilière.
Jean-François Morin
et ses invités.
Achat, vente, immobilier, marché, courtier, investissement, multilogement, inspection, financement, droit immobilier.
Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
Ladies and gentlemen, let's go.
Bienvenue à notre 12e saison de la bulle immobilière à CJMD. Vous étiez à l'écoute du jargon avec Guillaume Fortin. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier. Et cette année, cette saison-ci, on va avoir une saison incroyable immobilier parce qu'on est avec mon co-animateur Michael Falischini. Comment ça va?
Salut Jeff, ça va super bien toi?
Ça va super bien. Écoute, je pense que je l'ai mieux prononcé cette fois-ci.
Tu t'en viens pas pire.
Les prochaines fois vont être mieux parce que là, je me suis pris moi-même de cours sur hey, « merde, faut pas que je me trompe ».
Je vais t'enregistrer une petite cassette là, que tu vas pouvoir écouter le soir.
En podcast, en voiture, exact. Pour être sûr de pouvoir avoir la bonne prononciation. Mais tu sais, blague à part, t'es un gars qui est ultra impliqué dans l'immobilier. T'es un gars qui fait de la gestion immobilière avec Falischini Mercier. Puis tu sais, t'es un gars qui a un réseau d'affaires incroyable. Puis tu me permets de pouvoir le partager avec toi. On va dîner avec tes amis, avec des collègues, avec des partenaires d'affaires avec qui tu travailles, même des clients. Puis tu nous permets de pouvoir élargir nos horizons sur du real talk avec des gens qui sont directement dedans. Fait qu'un grand, grand merci. Co-animateur pour la saison 12, peut-être 13, peut-être 14, 15, 16, on verra bien aussi. C'est quand même toujours le fun de te recevoir avec nous. Aujourd'hui, parle-moi un peu de Jean-Simon, de quelle façon que tu le connais.
Yes, ben Jean-Simon, en fait, on s'est rencontrés il y a quelques années. Je pense qu'il y avait quelques immeubles. Il était un petit peu tanné, là. Il était un petit peu sur le point de vendre, tout ça. Fait que il nous a rencontrés là, à titre de gestionnaire, etc. Puis finalement, ça a cliqué tout ça. Puis on est devenu son gestionnaire pour ses immeubles personnels qu'il détient à titre personnel. Puis aussi on a fait un partenariat, on a acheté quelques immeubles ensemble. Fait que c'est un peu là que ça a commencé. Fait que Jean-Simon porte quand même plusieurs chapeaux dans l'immobilier, je dirais, mais disons que son titre principal, là, Jean-Simon Généreux, c'est d'être co-actionnaire de Hector Construction. Salut Jean-Simon, ça va bien?
Salut, ça va très bien toi?
Yes sir, yes sir. Écoute, d'entrée de jeu, peux-tu un petit peu nous parler de qui t'es, ton parcours, autant à titre personnel, d'investisseur qu'académique et professionnel?
Oui, on peut faire le tour de cela. Mais tout d'abord, merci beaucoup Jean-François, merci beaucoup Michael pour l'invitation. Donc c'est ça, ouais, un gars de Québec. J'ai fait une technique en architecture pour débuter mes études là, au cégep de Lévis-Lauzon. Là, on parle de 2004-2007. Ensuite de ça, moi j'ai travaillé un peu comme technologue en architecture. Puis j'en voulais plus, là. J'avais encore besoin de défis. Puis j'avais beaucoup d'amis qui poursuivaient à l'université aussi. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de m'inscrire en ingénierie à Montréal, à l'ETS. Puis d'essayer là, quelque chose au début quand je me suis inscrit dans ce cours-là. J'avais pas trop d'idées à savoir ce qui m'attendait à la suite. Mais on s'est lancé. Puis c'est ça, à l'époque, là, j'avais eu mon premier emploi. Je travaillais comme technologue en architecture. Puis quand j'ai eu la lettre d'acceptation à l'ETS, là, j'ai suite pris la décision là, de lâcher le bureau d'architecture, là, 40 heures assis devant un ordinateur. C'était pas fait pour moi. Il y a plusieurs types de personnalités. Mais moi, j'étais pas... J'étais pas fait pour être assis devant un ordinateur sans bouger. J'étais un peu trop hyperactif. Là.
L'expérience d'architecture a dû quand même doit encore te servir à tous les jours là, dans ton quotidien, j'imagine.
Oui. Je dessine encore à chaque semaine avec AutoCAD dans le cadre de mes fonctions chez Hector. Puis,
AutoCAD est encore à mode dans l'architecture aussi, là?
Beaucoup moins.
Beaucoup moins?
Beaucoup moins. Maintenant, on travaille avec Revit,
ouais.
Qui est beaucoup plus un modèle 3D où tu vois vraiment l'ensemble. C'est...
C'est pas mal plus rapide aussi au lieu d'avoir à conceptualiser les plans.
C'est peut-être un peu plus rapide, mais je dirais que l'efficacité, parce que tu dessines vraiment en 3D au lieu d'en 2D, l'efficacité puis le risque d'erreur est beaucoup moindre avec Revit. Là.
Ben oui, définitivement. T'es capable de voir les pentes de toit. Tu peux déjà penser à l'accumulation de neige, l'écoutement des eaux, etc. en le voyant 3D.
Ouais,
versus que
tu
des
peux
fois.
Sortir des volumes. Justement, en génie civil, on peut faire la gestion de l'eau pour le pluvial. Les bassins, on les dessine en 3D, puis le volume se fait tout seul.
Wow, c'est quand même vraiment cool. Puis quand tu parlais d'architecture, tu l'as fait au Cégep de Blouson?
Oui, exact.
OK, puis, parfait. Puis par la suite, tu as commencé avec tes stages, tu t'en travailles encore avec tes logiciels. Puis parle-moi un peu de après, puis maintenant, comment Hector est arrivé dans ton processus?
Oui, bien... En fait, Hector, là, c'est beaucoup plus loin dans le parcours, mais c'est ça. Donc, j'étais à l'université, il y a eu des stages. J'ai fait un premier stage là dans mon domaine. J'ai travaillé chez Pomerleau. En fait, projet de génie civil, là, vraiment un gros ouvrage d'art. Là, ça a été une super de belle expérience. Donc, très, 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 très gros projet à Québec, là, excavation des ponceaux, canalisation d'eau. Ça a été très impressionnant. Ensuite, je suis retourné à l'école. J'ai eu aussi la chance de faire un échange étudiant. J'ai gagné une bourse. Là, on avait eu des bonnes notes, ça avait été récompensé.
Tu as eu des bonnes notes, Jean-Son?
Oui. Ça... Michael me connaît quand même personnellement.
Oui, c'est ça. Puis il me disait que, justement, des fois, il y avait des analyses de projets, etc. Puis tu prenais quand même le temps de refaire ton analyse pour être sûr que, tu sais, toi, ça fit aussi dans ton pro format. Fait que, tu sais, t'es un gars qui est très dans le détail. Tu sais, on a eu, je pense que c'est une des premières qu'on a une deuxième version, puis quasiment une troisième version de l'après-entrevue. Fait que, tu sais, t'es un gars qui est minutieux dans ta façon de travailler. Là.
Ouais, puis j'aime ça. Quand Michael m'envoie ses chiffres dans un chiffrier Excel, là, j'extrais les données, mais je les remarche dans mon chiffrier à moi. J'aime ça travailler vraiment. Là, je suis très, très, très cartésien. Puis pour être honnête, même ton document, je m'en étais débuté un deuxième. Là, après ça, je disais, OK, non.
Je pense qu'il a corrigé les fautes d'orthographe aussi, si je ne me trompe pas.
Non. Ça,
Hey, mais je serais curieux, par exemple, que parce que moi, je suis une personne cartésienne aussi. Fait que si jamais ton Pro Format 2 peut être plus performant que le mien, mais on pourra regarder, voir de quelle façon qu'on pourra améliorer nos pré-entrevues. Stage aux États-Unis, stage avec Pomerleau. Ton premier emploi, ça a été à quel endroit?
Chez Logibourg, à Québec, qui est un très gros gestionnaire d'immeubles. Puis eux cherchaient quelqu'un, puisqu'ils ont un gros parc immobilier, mais ils possédaient aussi des terrains. Puis ils voulaient lancer, bon, appelons ça le volet entrepreneur général. Ils voulaient débuter de la construction neuve. Ce qu'il n'avait pas fait depuis un certain nombre d'années. C'est de quoi qui m'a vraiment motivé là, de pouvoir partir là, un peu là, à zéro, là, sans cadre préétabli, on va dire. Là. Puis j'ai débuté avec la construction d'un immeuble de 40 logements. Puis la particularité, c'est que c'était en construction préfabriquée. Donc ça, à l'époque, j'avais aucune idée c'était quoi, là, ce qui m'a amené dans une très grande aventure jusqu'à aujourd'hui. Mais vraiment tout modulaire, avec les dalles de béton, les planchers, sont coulés en usine, puis ça arrive sur des camions, puis il y a un très, très gros travail en amont de planification, puis tout s'assurer que ça va fonctionner, puis tout va fitter rendu au chantier.
Là. Puis ça, on va en parler tantôt là, de tout ce qui est du préfab, mais c'est quoi, j'aimerais ça que tu me parles du nom de la compagnie, un peu le concept, puis on rentrera dans le détail tantôt aussi, là, juste pour nous placer par rapport à ça. Mais est-ce qu'il y a une économie de temps? Y a-t-il une économie de coût aussi? Parce que on a parlé des maisons préfab, puis il y a eu les maisons Bonneville à l'époque. Puis il y en a qui disaient qu'ils faisaient les maisons à l'extérieur, puis la laine devenait tout mouillée, puis là, que c'était pas fait. Puis là, finalement, il y a des gens qui disaient non, c'est fait en usine, puis la personne en usine est payée 15-20$ versus le charpentier menuisier à 65$. C'est-tu un peu de la même façon que ça fonctionne au niveau du béton aussi?
Oui, mais là, c'est sûr quand on parle de maison préfabriquée, là, on va parler d'une maison unifamiliale en bois, puis c'est pas exactement le même type de préfabriqué, mais les bases se ressemblent beaucoup. Là. Nous, c'est vraiment une structure, fait qu'un squelette. Comme quand on se promène, là, puis on voit les gros chantiers de béton coulé ou les structures d'acier érigées, là, ben nous, on fait la superstructure ou le squelette de l'immeuble. On le fait en... Ben, y a des colonnes et des poutres en acier aussi, mais essentiellement, les planchers sont tous en pièces de béton préfabriquées. Oui, il y a une très grande économie en temps. Puis quand on prend le temps de tout calculer, puis tout regarder les aspects, puis qu'on sauve aussi les frais hivernaux, là. T'sais, construire l'hiver au Québec, là, on le sait, c'est pas évident. Les besoins en chauffage, toilage et toutes ces choses-là. Il y a une économie aussi là, monétaire au bout de tout ça. Puis il y a une autre chose qui est bien à la mode aujourd'hui, c'est le temps, mais aussi, excusez-moi de le dire en anglais, le labor intensive, là, c'est le besoin de main-d'œuvre. Parce que la main-d'œuvre dans la construction, il y en a de moins en moins. C'est difficile. C'est souvent ce qui bloque des projets. Là. Il y a des compagnies, je n'aimerais pas de nom, là, mais des compétiteurs où on s'est fait dire par des clients que c'est « OK, je vais faire ton projet, je vais ériger ta structure, mais quand je vais avoir le temps, quand je vais être rendu là, parce qu'ils n'ont pas plus de main-d'œuvre pour accélérer. » Donc, nous, ça prend beaucoup moins de main-d'œuvre.
Parfait. Puis, tu sais, c'est une main-d'œuvre spécialisée aussi. Fait que ça, on va en parler un peu tantôt parce que, pour vrai, je pense qu'on pourrait s'échapper puis en parler vraiment, vraiment longtemps.
Ouais.
Moi, je trouve ça super intéressant. Puis, c'est des sujets qu'on n'a pas l'opportunité nécessairement de jaser régulièrement. Fait que, tu sais, d'avoir un pro qui est là-dedans aussi. Puis, tu disais aussi que tu as eu l'opportunité d'aller en voyage à l'extérieur, qu'il y a des façons, des conceptualisations, des choses qui se font là-bas, que tu t'as ramené sûrement ici à Québec ou dans tes méthodes de travail ou dans tes projets?
Un peu, oui. Entre le cégep, début de l'université, là, je parle un petit peu le fil du temps, j'ai fait un échange, c'est pas un échange, c'est un peu là, une expérience là, d'ouverture d'horizon qui était offerte par le gouvernement du Québec. Je suis allé en France puis en Belgique un peu voir, là, puis c'était de l'échange. C'est qu'on rencontrait plein d'autres entreprises, des petites rencontres assez rapides, mais de notre domaine. Puis ça m'a permis aussi de voir comment on construit en Europe, comment c'est fait là-bas, puis tout ça. Fait que ça a été super, super bénéfique. Là.
Parfait. Puis arrive Hector Construction, sûrement qu'on arrive proche de ça aussi.
Oui. En fait, j'ai fait plusieurs projets là, avec le Gibault. Puis à un certain moment, il y a eu un ralentissement. Il y avait une petite pause d'un an entre le troisième et le quatrième projet que j'allais faire. Moi, j'avais soif de défi, là. Je voulais pas avoir d'attente. Là. J'étais quand même assez jeune aussi à ce moment-là, puis j'avais beaucoup d'ambition. Puis c'est là que je rencontre, par pur hasard, mes associés dans Hector Construction d'aujourd'hui, Sébastien et Hugues. C'est quand même drôle comment on s'est rencontrés parce que je terminais un projet dans lequel il fallait mettre des équipements de gym, puis j'ai contacté une compagnie de Saint-Romuald, je crois, qui reconditionnait des équipements de gym. Puis il me disait, on va te vendre, mais c'est des équipements professionnels, ils sont tous reconditionnés, on les démonte, on les remonte. Là, j'étais, ouais, on peut pas mettre de l'usager dans un bloc appartement flambant neuf, là, ça n'a comme pas de bon sens. Il m'a dit, non, tu vas voir. Il dit, appelle ces gars-là, ils viennent de faire un projet très haut de gamme, Lac-Beauport, puis ils ont mis ça, puis ils sont super satisfaits. C'est comme ça, finalement, que je les appelle, puis... poser des questions, c'est pour quel projet? Ils disent, ah oui, c'est le projet qui est monté super vite, ça, qu'on a vu aller en préfabriqué. Je dis, ouais, c'est ça. Ils disent, on aimerait ça venir voir. Pas de trouble. Qu'on a organisé une rencontre de chantier, puis c'est ce jour-là qu'on s'est connus. Puis, à l'époque, les gars étaient. Ça faisait déjà un bon bout qui était dans l'immobilier, mais ils agissaient à titre de promoteur. Fait qu'ils développaient les projets, puis ils engageaient un entrepreneur général pour les faire lever. Puis, ils avaient le souhait de devenir entrepreneur général. Il y avait une très bonne connaissance de la construction, mais ça leur prenait aussi quelqu'un qui connaît tous les aspects de la construction, puis un gars de terrain. Chose que je faisais, là, j'étais gérant de projet, surintendant de chantier en même temps. Donc, de là, l'idée est venue, puis l'association a débuté.
Puis là, on parle d'une association avec Sébastien Boucher, Hugues Michaud. Fait que dans le fond, vous êtes copropriétaire de Hector Construction, c'est ça?
Oui, exactement.
Puis, Hector Construction, construit pour vous, construit pour d'autres. Vous êtes niché dans quel volet, de quelle façon vous procédez dans l'ensemble?
On va appeler ça deux volets, mais c'est la même grande équipe, c'est la même entreprise. Là. Le premier, c'est côté entrepreneur général. Fait que ce qui était au départ le seul volet, on a commencé à faire des immeubles pour nous-mêmes. Par la suite, on s'est mis en faire pour d'autres aussi. On œuvre principalement à Québec, dans la ville de Québec, puis les immeubles qui nous appartiennent. Pas à Hector Construction directement, mais au groupe, il y a d'autres propriétaires aussi de greffer avec ça. Là.
OK, parfait. Puis par la suite, vous avez aussi, vous êtes directeur de structures de béton préfabriquées, qu'on va parler tantôt. C'est comment ça s'appelle, ça, cette technologie-là?
C'est des. Là, vraiment, là, c'est le nom, c'est une structure en béton préfabriqué.
OK, moi, j'allais chercher le Stubbs Precast, mais.
Stubbs Precast.
Ah, OK, bon, ouais. Parfait, c'est ça que je voulais pas dire. OK.
Puis, tu m'amenais là tranquillement.
Ouais, mais c'est l'objectif. Je vais sauter les deux pieds dedans. Puis, tu sais, tu disais justement que c'était un peu comme des blocs de Lego, etc. Puis, ouais. Vous avez déjà construit ou êtes en train de construire plusieurs projets aussi, là. Est-ce que tu veux nous parler un peu des différentes dernières réalisations qu'il y a eu, là? Parce que c'est des choses qui ont été vues et connues, là.
Oui. Ben, on a fait les projets, le pivot, avec Hector Construction en tant qu'entrepreneur général, là, qui sont tous faits en structure de béton préfabriqué. Ça totalise à peu près 420 logements. On vient de terminer un 151 logements à Charlebourg, le Cliff. C'est un très, très beau projet qui est aussi fait avec la technologie. Là, on a bénéficié de la rapidité du système qui est très performant d'ailleurs. Puis on va débuter. On en a fait d'autres aussi. Là, on a fait un 81 logements pour mon ancien patron à Logibourg, à Charlebourg aussi, il y a 2 ans, je crois.
Puis, tu sais, est-ce que dans tous vos projets, vous impliquez directement le préfab ou, tu sais, ça peut être des constructions de bois, etc.?
On ne fait pas de construction de bois pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas meilleur qu'un autre dans la construction de bois. En fait, c'est pas notre domaine. Donc, on se concentre dans quoi on a une expertise. Là. Donc, c'est. Des immeubles de quand même de plus grande envergure parce que si on est pour construire un 6 logements, c'est il n'y a personne qui fait un 6 logements en béton. Là. C'est beaucoup plus économique de le faire en bois.
Oui, 100%. Ouais. Fait que, écoute, ça met quand même la page, la table. Michael, qu'est-ce que tu en penses?
Non, c'est. Oui, on a beaucoup de contenu aujourd'hui. Là, fait que je pense qu'on va pouvoir.
On va pouvoir vibrer là-dessus, là, mais yes. Énormément. Le premier segment est toujours présenté par Plan de match Renault, qui est mon ami Kevin Filion. Plan de match Renault est votre allié pour planifier, budgéter, optimiser vos projets de rénovation puis d'immobilier, que ce soit pour la planification, l'exécution, la reconfiguration, mais aussi pour avoir un aménagement optimal. Vous voulez avoir plus d'informations sur Plan de match Renault, allez voir ça sur Facebook. La bulle immobilière est toujours à la recherche de commanditaires également. Pour nos saisons 2024, on va avoir un magazine qu'on va avoir notre discussion demain pour mettre en place. Fait que restez à l'affût, il va y avoir pas mal de nouveautés pour la bulle immobilière.
Seule et unique.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Lui, il va l'acheter ton bloc.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
Nous sommes de retour à la bulle immobilière avec Michael Faleschini de gestion Faleschini-Mercier. Pour vos besoins en gestion et location immobilière, Michael, c'est toi qu'on contacte?
Absolument. Pour toute la région de Québec-Lévis, là... Gestion immobilière, mise en marché de projets neufs, investissement immobilier, là, on est là pour accompagner les investisseurs puis les promoteurs. Là.
Puis, je voulais juste savoir là-dedans, quand tu dis accompagner les investisseurs, etc., mais c'est un peu plus élargi aussi. Là. Vous faites de la location, vous faites aussi des de la comptabilité aussi pour eux, pour les aider. Là.
Oui, c'est ça. Ben, en résumé, là, on s'occupe vraiment de toute la communication avec les locataires, toute la collecte des loyers, là, tout ce qui passe par le compte de banque. Donc, payer les dépenses de l'immeuble, collecter les loyers. On fait la comptabilité, effectivement, la tenue de livre. On envoie des rapports mensuels aux propriétaires. On s'occupe des locations, des avis de renouvellement, tout ce qui est gestion de la maintenance. On a une équipe de maintenance pour les menus travaux. On représente le propriétaire au tribunal administratif du logement. Donc, c'est vraiment un clé en main qu'on offre aux propriétaires là, qui ont soit pas le temps de s'en occuper, soit qui veulent se concentrer à développer leur parc immobilier. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on On peut les accompagner là, depuis 2019, là, depuis notre création. Là.
Quand même très cool. Tu sais, Michael, toi puis moi, on est aussi administrateur au réseau immobilier. Il va avoir justement le colloque annuel qui va être en février avec Luc Poirier. C'est quand même une grande pointure dans l'immobilier. C'est une personne très connue, mais c'est une personne qui est très tranchée aussi dans ses opinions puis dans ses discussions.
Ça va être très, très intéressant, effectivement.
Vraiment. Puis tu sais, il y a toujours des déjeuners-conférences. Il y en a un qui, à tous les mois, il y a toujours des partenaires qui viennent se présenter. Fait que vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet-là, super simple, allez sur réseauimmobilier.org. Aujourd'hui, on est avec Jean-Simon Généreux, copropriétaire de Construction Hectare. On a parlé de la structure préfab en béton, juste dans l'introduction, puis on a titillé, puis on a juste comme effleuré un peu le sujet. Mais je veux qu'on rentre plus deep là-dedans. De quelle façon tu as eu l'opportunité de connaître ces structures-là, puis de pouvoir devenir un spécialiste de l'intégration de ces structures-là, mais aussi, c'est quoi tous les bénéfices que ça peut apporter, par exemple, sur un 50, 100, 400 logements? Y a-tu des bénéfices en économie de coût, en économie de temps, en économie de main-d'œuvre, etc.? Fait que, tu sais, Jean-Simon...
Toutes ces réponses,
on veut les avoir.
Excellent. Quand on parle de béton préfabriqué, c'est pas compliqué. C'est du béton, mais au lieu d'arriver avec des bétonnières au chantier puis de le couler sur place puis de former, on le fait en usine. Fait que la qualité, elle est plus grande. Même en ingénierie, là, un petit détail... Quand on fait un calcul pour les charges d'une structure, il y a des ratios, des coefficients de sécurité à appliquer. Puis à l'université, ils nous ont appris que c'est la réalité. Quand on fait une structure en béton coulée en place, on multiplie toujours à quelque part dans la formule par 0.65. Mais quand on le fait en precast, en béton préfabriqué, c'est par 0.85. Il y a même un 20% de différence de coefficient de sécurité qui est appliqué en moins.
Puis tu sais, en même temps, il doit avoir aussi toute l'histoire de la qualité du béton qui a été séché correctement. Là, ben parce oui. que sur les chantiers, on va se le dire, là, généralement, on devrait attendre, je pense, quasiment 28 jours avant de commencer à faire la structure. Généralement, le béton, il est coulé, puis le lendemain, on monte le rough. Là.
Ouais, 28 jours avant d'enlever les étamants, ou plus précisément, là, on prend des tests, des cylindres formes. De béton qu'on va faire casser là, par un laboratoire pour tester la compression, la dureté du béton. Puis c'est ce qui va dicter à quel moment on peut commencer à enlever les étamants. Mais,
donc, ce 28 jours-là, on ne l'a pas finalement avec votre technologie.
Non, du tout, on n'a pas besoin d'étamants. Nous, ça arrive sur des camions, la dalle, elle est déjà...
ça a déjà été fait en usine. Là.
Exact. Puis on utilise aussi ce qu'on appelle un dry mix, c'est qu'il y a beaucoup moins d'eau dans le mélange de béton. Fait que le béton, quand il est mis, est beaucoup moins liquide parce que pour un paquet de technicalité d'usine, c'est plus simple aussi. Fait qu'on a une plus grande qualité. La chaleur est toujours contrôlée, l'humidité est toujours contrôlée dans l'usine. Les travailleurs travaillent sur une table à 4 pieds de haut. C'est vraiment là,
le contrôle de qualité. Beaucoup moins d'imprévus.
Il n'y a pas de gel, il n'y a pas de grosse canicule l'été, la chaleur, le soleil. Il y a un paquet de facteurs là, qui en usine est facilement contrôlable.
C'est quand même incroyable là, qu'est-ce que ça peut donner. Puis il ne doit pas avoir nécessairement plein d'usines qui font du préfab en béton. Là. Puis tu sais, ça veut dire que tout ce qui est de rod, d'armature, tu sais, de tout ce qui est de portance doit être grandement amélioré. Parce que tu sais, on va se le dire que des fois, les chantiers, si tu as une personne sur le chantier qui a une mauvaise journée puis qui botche, ça peut arriver que ton armature ne soit pas placée correctement. Puis qu'il ne l'ait pas mis à bonne hauteur, puis qu'il soit trop proche du dessus de la dalle. Fait que là, quand ça va corroder, tu vas avoir les. Puis les matériaux doivent être meilleurs aussi. Là. Les rods doivent pas être toutes rouillées en usine non plus. Là.
Non. Puis oui, le contrôle qualité est beaucoup plus grand. Là, mais aussi, la technologie. On parle des dalles parce qu'il y a d'autres produits là, de béton préfabriqué. On y reviendra. On fait des murs, les escaliers aussi. Paquet de choses. Mais les dalles, on utilise des câbles précontraints, qu'on appelle des torons. C'est tendu. Là, ces dalles-là sont coulées sur un lit. C'est 4 pieds de large. Ça, le moule, il y a toujours, c'est 4 pieds. Par une longueur. Indéfini, là, qui va être défini par les besoins du projet.
Mais tu sais, il doit avoir quand même une certaine limite pour la portance. Là. On ne doit pas être capable d'aller à 100 pieds de grandeur pour une colonne.
Il y a des épaisseurs de dalles. On travaille avec des standards. C'est 8 pouces, 10, 12, puis on va travailler avec du 14 pouces. On en a dans notre prochain projet là, pour un stationnement hors emprise là, sur lequel il va y avoir un autre stationnement extérieur. Les camions de pompiers peuvent passer. Là, on utilise vraiment des dalles plus grandes qui ont des plus grosses capacités. On peut aller chercher jusqu'à du 50 pieds, mais généralement, puis qu'est-ce qui est le plus économique, c'est qu'on va aller travailler avec du 35 pieds. Puis bien souvent, les projets, il y a des stationnements au sous-sol. Stationnement, ben on ne veut pas avoir 3,5 cases, on veut avoir 4 cases. Fait que nous, on travaille avec des portées de 11 mètres, à peu près 35 pieds. C'est ce qui est le plus économique là, qu'on essaie de viser.
Fait que tu sais, avec du 11 mètres, on est capable facilement de rentrer 4 voitures. Là.
Exactement. C'est ce qu'on vise. Nous, on travaille avec la trame, avec les architectes en amont, au début du projet. Puis on part avec des axes de 11 mètres. Évidemment, le bâtiment n'a pas tout le temps un multiple précis exact, de 11 mètres. Fait que la dernière trame, on s'ajuste ou quand il y a des changements de direction. Puis c'est très malléable quand même. Là. On n'est pas pris avec un rectangle. Puis
c'est ça,
ça s'adapte à tous les concepts. Là.
Ah, c'est quand même vraiment cool. Là.
Fait que, exemple, ça te permet de mettre 4 cases de stationnement entre les colonnes versus un projet standard qui en rendrait combien?
2 cases. Les trames qu'on voit le plus économique aussi, encore une fois, là, en béton coulé en place ou souvent en structure d'acier, on va parler de 5,5 mètres, ce qui est 2 cases de stationnement.
Super. Le 2 cases de stationnement fait en sorte aussi que tu as toujours une colonne qui va avoir 16, 18, 24 pouces de large. Fait que oui, tu vas être capable de se stationner pareil, mais il doit y avoir des gens qui accrochent un petit peu plus souvent leurs ailes en avant ou en arrière.
Oui, puis chaque stationnement adjacent à une colonne, il est un petit peu moins le fun à se stationner, là, on va se le dire. Puis au-dessus de ça, il reste tout le bâtiment. Là. Les colonnes en aménagement, c'est un peu plus compliqué quand... On coupe la moitié des colonnes dans un projet.
Souvent, on arrive avec une colonne dans un îlot ou des choses comme ça. Ça diminue ce risque. Ben, ce risque là, de,
c'est cette contrainte.
Oui, c'est exact. Ça.
Ben, il y en a encore, mais il y en a 2 fois moins. Fait que ça, c'est
ça, exact. Super, c'est bon.
Puis, tu sais, au niveau de la rapidité de ça, il y a le FITS qui se construit à Lévis, un 25 étages, qui est construit avec béton sur place, avec pompes à béton, etc.
Oui.
Ce genre de projet-là, vous êtes capable de le faire aussi.
Oui.
Puis, tu sais, en économie de temps, par exemple, versus le standard, là, as-tu un exemple de qu'est-ce que tu as déjà vécu qui fait en sorte que tu as une économie de temps quand même assez importante?
Oui, on est plus rapide en installation, ça c'est une chose, mais aussi, on l'a dit tantôt, l'étaiement, là, tout le temps de cure du béton, ben nous, on ne l'a pas. Ça veut dire que les autres corps de métier...
C'est le 28 jours qu'on parlait tantôt, c'est ça?
Oui, exactement, ou le temps que le béton atteint la bonne dureté. Mais l'électricien, après ça, le gars de système intérieur a commencé à faire les divisions, la plomberie. On peut pas débuter ça quand c'est un champ de poteaux sur un étage, là, c'est impensable, ou très peu en tout cas. Là, avec notre système, nous, l'échéancier, on va dire, là, voyez ça comme ça, il est compressé parce que les autres corps de métier nous suivent de beaucoup plus près. Fait que ça aussi, c'est une économie de temps.
C'est un peu un effet domino dans le sens positif qui vous fait sauver du temps à plusieurs étapes parce que ça se chevauche moins. Ben en fait, ça se chevauche moins longtemps, si on veut, les différents corps. Là.
Exactement. Les autres étapes débutent. Puis...
Est-ce que vous êtes une des seules entreprises dans la région qui fait cette technologie-là? Ou ça, parce que ça, je sais que ça t'amène à des régions là, en Ontario, à plein de places. Donc, vous avez quand même des projets là, un peu partout.
Le Québec est très particulier. C'est un peu là, un petit peu le village de Gaulois là, ou la résistance, je peux dire ça comme ça. Où la préfabrication est le moins à la mode. L'Ontario, c'est épouvantable le nombre de projets qui se fait. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il se produit et installe, évidemment, 14 millions de pieds carrés de planchers préfabriqués par an, ce qui est énorme. Nous, au Québec, pour une raison peut-être que j'ignore, là, mais on a eu beaucoup de main-d'œuvre. On a été très, très, très fort là, à pas manquer de main-d'œuvre. T'sais, la pénurie de main-d'œuvre en Ontario s'est fait connaître beaucoup avant plus tôt qu'ici.
Ça les a forcés peut-être à s'adapter plus puis à arriver avec une technologie comme ça versus ici. Là,
ben oui, l'Europe, c'est épouvantable comme il y a du béton préfabriqué là-bas au UK. En Floride, on va là-bas, je regarde les immeubles, il y en a partout. Fait que de plus en plus, ça s'en vient. Nous, on est devenu le distributeur exclusif du plus gros préfabricant de béton de l'Ontario. Fait qu'il nous a donné le territoire du Québec. Il dit... Les plans et devis en français. Non, c'est quand même un bon défi. Il nous a dit, allez-y, lâchez-vous là.
Là, vous ne manquez pas d'ouvrage là, dans les prochaines années. Là.
Non, c'est quand même assez récent, ça, ce partenariat-là qu'on a avec eux. Puis, on avait d'autres occupations. On n'avait pas rien à faire avant ça non plus.
Mm-hmm. Ouais, c'est aussi ça, là.
Ben, tu rajoutes ça sur... l'emploi du temps dans une semaine.
Parce que juste dans les dernières années, vous avez développé quoi 600-700 portes pour vous-même, Hector Immobilier quasiment.
Oui, exactement. Là. Moi, depuis que je suis sorti de l'école, là, je pense que je suis au-dessus de 800 portes de bâti là, en tant qu'entrepreneur général. D'être rendu un point, j'ai regardé les chiffres, là, 1,6 million de pieds carrés de bâti dans les dernières années. Là, fait qu'on n'a pas chômé.
Rapidement comme ça, est-ce qu'on peut avoir à peu près une idée de combien de pieds carrés par jour que vous êtes capable de poser en structure préfab?
Oui, bien si on parle vraiment des planchers, parce que là, évidemment, avant la journée que tu as installé le plancher, tu as installé tes colonnes et tes poutres. Là, les planchers, là, on peut installer jusqu'à 7000 pieds carrés par jour.
Donc, wow! C'est quand même.
Oui, même en Ontario, ils nous trouveraient rapides. On a. Pas me vanter, mais on a une très bonne équipe. On avait on a fait un projet de 54 logements en face du Costco sur le boulevard Le Bourgneuf là, pour le Gibault dans le temps.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On a levé 7 étages en
2 semaines quasiment.
Non, c'est en 5 semaines.
Wow.
Ouais, 5 semaines, 7 étages étaient érigés.
Wow, puis en date d'aujourd'hui, cet étage, ça peut prendre dans le béton traditionnel? Parce qu'il faut attendre le séchage des colonnes pour faire l'autre étage d'après?
On a quand même des bons coffreurs au Québec, comparativement à l'Ontario, parce qu'en Ontario, le clash est énorme. Ouais, ouais. Ici, pour vrai, là, je parle de la compétition en vient, là, mais on a de très, très bons coffreurs. On a beaucoup de main-d'œuvre, puis beaucoup de main-d'œuvre qualifiée en coffrage de béton, Montréal, Québec. Ils sont quand même assez rapides. Fait qu'on va parler peut-être, tout dépendant du nombre de pieds carrés, là, mais peut-être une semaine et demie par étage. Là. Donc, c'est certain qu'on a un petit avantage, nombre de jours. Fait que là, le nombre d'étages qu'on fait fois le nombre de jours qu'on sauve, à un moment donné, ça commence à faire une économie considérable. De là qu'on est beaucoup plus rapide. Puis les autres étapes qui s'en suivent plus rapidement aussi.
Là. Puis là, moi, j'ai une question plus technique. Là. De la façon que je le vois, c'est comme si on avait des poutrelles un peu plus larges de 4 pieds de large. Mais généralement, il va toujours avoir un joint entre deux poutrelles. Est-ce que votre joint entre les deux poutrelles, vous le faites volontairement plus large pour après ça venir remplir ça d'un autre coulis puis de venir scinder ça parce qu'il doit y avoir de l'armature qui arrive se jointer entre les deux. Là, parce que, tu sais, ouais. Bien qu'on ait un 4 pieds d'un bord, quand on vient installer ça à côté, il faut qu'ils viennent se jointer puis qu'on ait une performance structurelle aussi. De quelle façon que ça vient tout se mettre en pain, tout ça?
Oui, tout à fait. Ben, c'est ce qu'on appelle la clé. Fait que le côté de chacune des dalles qui a toujours une largeur, on va dire, de 4 pieds, est faite de forme trapézoïdale un petit peu. Fait que quand on accote deux dalles une à côté de l'autre, là, le joint parallèle, le bas se touche, puis le haut, il y a comme une forme de demi-lune chaque côté. Puis on vient mettre un coulis de béton de performance, là, 35 MPa là-dedans. C'est ce qui vient barrer un petit peu. À certains endroits stratégiques, il y a des petites barres d'armature qu'on vient mettre puis qu'on vient bétonner aussi localement, puis au bout de chacune des dalles. Les dalles sont déposées sur des beams, des poutres d'acier. Il y a un petit crochet, un crochet d'armature là, de la Rod oui. 5-8, le 15e, de chaque côté qui vient entrer dans la poutre. Puis la poutre d'acier, elle est bétonnée au chantier. Fait qu'on vient, avec ce béton 35 MPa-là, la remplir. Ça veut dire qu'il y a un peu de béton qui se coule au chantier, mais c'est minime très comparé peu. Au reste. Puis c'est ce qui vient tout lié. Puis là, les gens, des fois, ils disaient, ils bloquent l'ego, OK, c'est un tremblement de terre, comment? Disent, non, il n'y a pas. Il y a des ingénieurs. Qui signe celle ça, il n'y a pas de danger. Là.
Puis une question rapide avec ça, on arrive avec justement le ça vient d'être scindé, puis mis en pain, etc. Mais ouais. Est-ce qu'il y a possibilité, parce que de plus en plus, on veut savoir la recette du béton qui a été utilisé pour les constructions, pour je veux pas dire les garanties, etc. Là, mais on veut savoir de comment que ça a été construit. Est-ce que on reçoit le détail précis de chacune des pièces qui a été montée, puis tu sais qu'il y a quasiment un code-barre dessus pour faire la traçabilité de...
Il y a, c'est pas un code-barre, mais il y a un numéro. Chaque dalle est unique, chaque produit est unique, il y a une traçabilité. L'usine est certifiée CSA, évidemment. Puis même le coulis dont on parlait, qu'on vient rajouter au chantier pour tout jointer ça ensemble, nous, on a un laboratoire qui étudie puis qui valide nos recettes de béton. Ils approuvent le tout, ils viennent prendre des tests en chantier quand la bétonnière arrive. Fait que tout est...
OK, fait qu'il y a des gens qui viennent confirmer la qualité aussi sur place. Parce que, tu sais, ouais. Ça peut toujours être galvaudé aussi sur la personne qui vient livrer le béton, qui n'a pas la bonne recette, qui n'a pas la bonne affaire, puis que ben, finalement...
C'est arrivé en 2019, une usine de béton à Québec, là. Ils ont acheté une machine high-tech de l'Allemagne, je crois. Ils sont venus installer ça, c'est une machine épouvantable qui pesait la poudre de béton pour mettre précisément le bon nombre de ciment dans le mélange. Puis la calibration de la balance n'était pas bonne. Fait que pendant près d'un mois, ils ont livré du béton partout dans la ville de Québec qui n'avait pas les bonnes capacités.
Hip à l'aïe.
Oui, oui, oui. Ça, c'est une histoire qui est arrivée pour vrai, là.
Aïe, et puis toi, tu es investisseur aussi, là. Tu disais que tu avais construit des logements, etc. Tu sais, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours entrepreneurial ou d'investisseur. Tu sais, on fait de l'investissement, tu es impliqué justement dans plein d'expertise, plein de champs externes, mais de quelle façon que tu arrives, toi, à mieux faire de l'investissement assurément avec du partenariat? Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours d'investisseur.
Oui. À la fin de mon bac en 2012, j'ai lu le livre de Jacques Lépine, je crois que ça s'appelait « L'indépendance financière grâce à l'immobilier ». Puis, je suis pas le type de gars qui aimait beaucoup lire des livres. En tout cas, je le faisais pas pour comme un passe-temps. Puis, ce livre-là, je l'ai dévoré. Là, ça a pris deux jours, il était lu. Puis, j'étais à ma dernière session à l'université. J'ai tout de suite commencé à regarder ce qui était à vendre sur le marché. Puis là, je me suis dit, si ça me prend l'immobilier, il faut que je me lance dans l'immobilier.
T'avais quel âge à ce moment-là, à peu près?
24 ans, à peu près, ouais, à peu près 24. Puis j'ai trouvé un premier triplex. Puis là, bon, je terminais à Montréal, je retournais à Québec. Ça prenait un appartement aussi. Puis là, jusqu'à, on va acheter un triplex, puis on va aller vivre dedans.
Donc, investissement.
Premier investissement. Ça a débuté
ça ressemble
comme
à toi, ça, Jeff.
Oh, ouais, 100%, sûrement pas les mêmes péripéties, mais assurément de l'expérience qui est rentrée en...
Assez jeune aussi.
Ah oui, oui.
OK, fait que, c'est cool. Ben, fait que c'est ça. Puis au début, premier emploi à Québec. Je reviens ici, commence à habiter mon bloc. Écoute, il y a eu du stress au début, c'est l'inconnu, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Je me rappelle encore la première lettre d'avis de renouvellement que je vais porter à mon locataire en haut, puis le monsieur, là, il dit « J'ai failli l'acheter ce bloc-là, tu t'es fait avoir, blablabla », puis il déblatérait, puis finalement il refuse l'augmentation, mais je chicane quasiment avec, là, tu sais, t'es jeune, c'est première expérience.
Puis t'es prime, là, tu te dis, hey, c'est mon bien, t'habites chez nous, fait que là, c'est moi qui fais ça. Écoute.
Ouais, puis il te fait croire l'histoire d'horreur que ce bloc-là, il y a plein de problèmes, puis que tu t'es fait avoir. Pendant un instant, tu le crois, là, mais.
100%.
On parle-tu de Val-Bélair, ça?
Oui, sur Jaconde, dont tu s'occupes depuis quelques années maintenant, là.
Puis tu sais, une histoire cocasse avec ça, moi, ça m'est arrivé. La première fois que je suis en appartement, mon propriétaire vient, il s'appelait Conrad Nadeau. Gros merci de m'avoir donné l'opportunité d'avoir un logement à 19 ans. Puis tu sais, que j'avais pas trop de crédit, pas trop d'affaires, parce que tu sais, je commençais dans la vie. Là, j'avais mon école de badminton à ce moment-là, tu sais. Mais je suis une personne qui travaillait vraiment beaucoup. Puis il était venu nous donner une augmentation de 10$. Le loyer était à 3,90$, puis il nous augmentait à 400$. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je peux dire à ça? Ben, il dit, tu peux dire oui, tu peux dire non. Puis il dit, tu sais, on peut contester. Là. Ben, j'ai dit non. Fait que là, tu sais, il dit 5$, c'est correct? Je dis, oui, 5$, c'est bien. Fait que là, tu sais, j'ai pris 5$. L'année d'après, il est revenu avec 5$. Fait que là, tu sais, sur 2 ans, j'ai eu mon 400 d'augmentation. Fait que tu sais, j'avais trouvé ça vraiment drôle. Parce que je savais pas quoi faire avec ça. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il dit, faut que tu me répondes oui ou non. Puis là, j'ai dit, ben, écoute, je dis non. Fait qu'il dit 5, t'es-tu correct avec ça? J'ai dit 5, c'est bien parfait, là. Mais j'avais trouvé ça vraiment très drôle.
Fait que là, t'es en train de me dire que t'as répondu « Je reste, mais je refuse l'augmentation. »
Ben, en fait...
comme nous, on se fait faire là, par plusieurs locataires.
Mais écoute, c'était ma première expérience, 100% ouais. Que j'ai fait ça, mais en même temps, je l'ai fait devant lui. Tu sais, c'est comme, il a biffé
à feuille. La porte, là.
Ouais, mais tu sais, en même temps, il a biffé à feuille, il me l'a donné, puis je l'ai fait. Puis l'année d'après, tu sais, il me l'a fait déjà à 5$. Là. Fait que tu sais, mais en même temps, j'avais aucune idée comment ça marchait. Fait que j'ai dit non. Fait que là, il dit, ben 5, c'est correct? Je dis, ben oui, 5, c'est bien. Fait que là, tu sais,
c'est pas cher. 3,95.
Non, écoute, c'est un grand 4,5, plafond 9 et pieds, ouais. La vue sur le château Frontenac, c'était quand même très cool. Un immeuble un peu crappy, par exemple, tu sais, que maintenant, je rachèterais, là, puis pour moi, il y aurait pas mal de centaines de milliers de dollars à réinvestir, réinjecter. La localisation est extraordinaire, le setup est vraiment bien, mais tu sais, effectivement, c'était pas cher. Là. Moi, j'avais eu un 3,5 à l'époque, quand j'ai acheté en 2003, puis écoute, je me demande si la madame payait 270 par mois. Un 3,5, on avait 750 pieds carrés. La madame, ça faisait 17 ans qu'elle était là. Fait que, tu sais, finalement, on a réussi à le monter. Le temps a fait en sorte qu'elle a quitté, j'ai rénové le logement, etc. Mais je louais 750 quelques années après. Là. Fait que, tu sais, c'était comme pas du tout le même revenu.
Belle optimisation.
Ouais, c'est ça, mais ça s'est fait, tu sais, j'ai dit quelques années, là, parce que la madame a resté vraiment longtemps aussi, là, fait que c'est quelques années après. Premier triplex, après ça, comment ça se passe pour les investissements?
J'achète un deuxième bloc, 4 logements, ce coup-là, avec un de mes amis. Celui-là, on était 2 dessus. Ensuite, j'achète 5 logements, seul. Je travaille encore beaucoup au travers, là, aussi, là. Faut dire, mon emploi du temps, là, c'était pas une job à 40 heures semaine. Là. J'étais très, très impliqué dans les projets de construction pour l'emploi que j'occupais. Puis, à un moment donné, c'était trop. Là, j'étais vraiment tanné. Gestion des locataires, surtout. Là, ça grugeait beaucoup de temps. Les appels, les problèmes, les ci, les ça, les plaintes. Récolter les loyers. Le monde, vient à telle heure, tel jour. Finalement, ils sont pas là. Ah, j'ai juste la moitié. Bref, j'étais prêt à tout vendre, j'étais plus capable, je voulais me concentrer vraiment en ingénierie puis en construction. J'aimais l'immobilier, mais j'aimais encore plus la construction. Puis il y a un de mes bons amis qui m'a référé à Michael. Il m'a dit « Ah, il dit, bon Jack, fais de la gestion immobilière, tu devrais aller prendre un café avec. » On est allé prendre un café, puis ça coulait comme de l'eau, là, dans le temps d'une heure. On s'était entendu, puis il prenait en charge la gestion de mes 12 logements, ce qui était une très bonne chose, puis dont je suis vraiment content aujourd'hui. Je regretterais d'avoir vendu avec du recul. Puis pendant cette même rencontre-là, Michael et Karine, les deux qui sont associés ensemble, là, m'ont proposé. Donc, on veut monter un petit groupe et commencer à acquérir d'autres immeubles. Nous, on va trouver les deals. On va, toi puis un autre investisseur, Bruno, à l'époque, acheter les immeubles ensemble. Puis nous, après, on en fait la gestion. C'est un peu merveilleux pour moi. Là. Je veux dire, j'ai pas grand-chose à faire d'autre que mettre de l'argent et détenir des immeubles. Fait que ça me plaisait beaucoup. Fait qu'on a commencé.
Puis tu sais, quand on dit de mettre de l'argent, là, tu sais, ça devient pas toujours infini non plus. Là. Fait que tu sais, toi, tu as une compagnie opérante. Tu as des investissements qui sont là, tu as du cash qui vient sortir de ces projets-là.
Ouais.
Fait que, tu sais, ton actionnariat n'est pas toujours 100% comme de quoi que tu es le prêteur, pas le prêteur, mais le bailleur de la mise de fonds complète. Là. Fait que tu dois avoir des partenariats avec X montant de mise de fonds, des fois plus, des fois moins.
Ouais.
Des fois un petit peu plus d'opérations, des fois un petit peu plus de gestion à l'interne qui fait en sorte que ça vient jouer sur tes pourcentages sur les immeubles. De quelle façon, généralement, tu sais, puis sans dire tes ententes, là, mais la ligne directrice.
Excuse-moi, Jeff, là, tu parles avec les investissements avec Michael.
Ouais, mais ouais.
Ben, c'est ça. En gros, chaque immeuble est une nouvelle histoire, est un nouveau deal. Là. On ouvre une compagnie peu importe la forme juridique.
Il y a différentes formules selon le cas, mais non, c'est ça. Ça n'a pas pris trop de temps qu'après qu'on s'est rencontrés, qu'on a acheté quelque chose. Je pense qu'on a commencé avec le 7 logements sur Paradis. Après ça,
ouais.
Miran, on a acheté un 5 logements avec le commercial au rez-de-chaussée. Après ça, t'es arrivé, je pense, Rougemont, 14 logements, puis 3e avenue, 8 logements. Fait qu'à date, c'est ça qu'on a pas mal ensemble. Fait que ça a quand même roulé, là, tu sais. Puis on a profité de la période aussi où que les taux étaient bas. Il y avait eu une forte augmentation dans les valeurs. Fait que ça nous a permis quand même de refinancer ça, là, puis de pas trop sortir d'argent de nos poches, de rouler un peu avec la même argent.
Ouais, c'est ce qui est intéressant. 2020, 2021, ouais, là, c'est une belle époque parce que c'est ça. On a acheté les immeubles un an et demi après. Il y avait déjà du jus là, à tirer.
Oui, là, les pompées, là, 100%. Ouais.
Il y en a encore. On travaillait là-dessus.
Oui, mais il fait plus aussi soleil qu'il a fait soleil durant ces années-là. Sinon, c'était trop facile.
Mais s'il fait trop soleil, il y a beaucoup de gens à la plage aussi.
Oui. C'est trop facile, tout le monde va le faire.
100%, effectivement, là, que plus qu'on ouvre la table, plus que c'est facile aussi. Puis ouais. Là, tu sais, maintenant, tu construis du 400, du 100, du 150 logements. Est-ce qu'il y a des investisseurs qui font des projets qui te proposent aussi d'avoir des parts à l'intérieur de leurs projets?
Oui, dans les plus gros projets, là, ce que j'appelle les lignes majeures, là, le dernier projet qu'on vient de livrer, un projet de 151 logements, le Cliff, dont j'ai parlé tantôt, là, j'ai eu l'opportunité d'embarquer à titre d'investisseur aussi dans le projet. Donc, c'est quand même cool de bâtir avec ton entreprise un immeuble que tu détiens par la suite, là.
Ouais, t'as un plus grand sentiment d'appartenance, j'imagine, à voir ce que tu livres.
Honnêtement, l'effort est le même à tous les projets parce que j'ai une responsabilité puis une éthique. Là, je me donne à 110% peu importe le projet que je construis. Mais il y a un petit sentiment d'appartenance en plus.
Ouais, c'est comme, vraiment cool. C'est comme tes enfants versus les enfants de ta sœur. Tes hommes pareil, mais différemment. Puis, écoute, pour vrai, c'est un parcours incroyable. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, tu sais, une des choses, des structures préfables, là, c'est des choses qu'on doit prendre le temps de réfléchir, de revoir, de refaire nos calculs aussi avec les estimations. Est-ce qu'on est mieux de le faire, justement, avec du préfab ou pas? Ouais. Puis, tu sais, la qualité, selon moi, doit être grandement meilleure que sur des chantiers. De par les contraintes, de par les gars qui sont sur place, de par des fois les mauvaises journées, etc., qui font en sorte que c'est là. Tandis qu'à une usine, mais t'as tous les facteurs de contrôle de qualité qui sont mis en place à différents niveaux dans le processus de, non pas juste à la fin, un coup que c'est tout coulé puis tout bétonné. Fait que tu sais, ça fait une bonne différence. Vous savez que la bulle immobilière est toujours disponible sur nos podcasts, que ce soit sur Apple Podcasts, Google Podcasts, puis même Balados. Vous désirez avoir plus d'informations pour la bulle immobilière, c'est simple. Écoutez-nous en ligne.
Fucking Fresh.
96.9, The Alternative Radio.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes.
Vous avez des questions pour nos invités? Vous voulez vous-même être invité à la bulle immobilière? C'est super simple. Contactez-moi directement sur mon courriel à info@commercialjeanfrançoismorin.ca. Vous voulez partager votre expertise, votre historique, la spécialisation de votre entreprise, vous voulez faire grandir le milieu de l'immobilier, partager vos success stories, la bulle immobilière est pour vous. Contactez-nous directement. Vous pouvez même me texter, m'appeler sur mon cellulaire au 418-801-8011. Qu'est-ce qui est incroyable de tout ça aussi, c'est que vous pouvez me rejoindre pour vos projets immobiliers, que ce soit résidentiel, commercial, industriel, multilogement. Notre équipe, on est des machines de guerre pour réussir à vendre des propriétés. On a des mises en marché qui sont incroyables. Vous voulez faire affaire avec une équipe parce qu'on n'est pas juste une personne. On est 20 personnes qui travaillent avec nous. On investit 800 à 1000 heures par semaine pour vendre de l'immobilier. Fait que c'est sûr qu'on est complètement différent qu'un courtier qui va investir 50, 60 heures par semaine parce que en groupe, on investit énormément d'heures. Michael.
Yes.
Tu connais Jean-Simon depuis quand même un bon moment. Tu sais, vous avez eu des discussions ensemble puis tout ça, puis tu disais justement hors d'onde quelque chose de vraiment cool, c'est quoi?
Ben, en fait, je voulais juste ramener Jean-Simon à une partie de golf qu'on a faite ensemble à peu près en 2022, je crois, parce qu'on avait des discussions sur comment allait s'orienter le marché immobilier puis l'économie en général dans la prochaine année, tu sais, puis... Jean-Simon a toujours une vision beaucoup plus pessimiste que moi. On est vraiment un peu comme les antipodes. Moi, je suis comme un petit peu plus optimiste par rapport à tout ça. Fait que je voulais revenir un petit peu là. Tu sais, Jean-Simon pensait un peu plus que là les hausses de taux, puis là il va y avoir des opportunités, tout ça. Fait qu'il avait une vision un peu plus comme ça. Moi, c'était plus l'inverse. Je me suis toujours dit, écoute, pénurie de logement. Tu sais, l'économie va bien. Tu sais, il y a l'immigration. Il manque de logement, ça va bien aller dans l'immobilier. Fait que, j'aimerais ça, Jean-Simon, que tu nous parles.
Que tu t'excuses.
Oui, c'est ça. J'aimerais ça que tu dises officiellement là, en ondes que j'avais raison.
On va laisser passer l'ego.
Je dois dire que ma vision a changé depuis cette partie de golf-là. Effectivement, Michael, j'étais beaucoup plus pessimiste à l'époque, je te l'accorde. Mais ouais, faut dire que moi et Michael, on était vraiment aux deux opposés. Là,
il y en a un qui était chaud, l'autre était à jeun, tu sais.
Ouais, exactement.
C'est Jean-Simon qui était chaud, je suis à jeun.
Bon.
Mais non, c'est pas vrai.
Mais vraiment, on était chacun, chaque bout du spectre totalement. Là. Michael, lui, avait toujours le gaz au fond. Ça va bien aller, il n'y a pas de problème, let's go, leverage, on réhypothèque, les marges de crédit, il n'y a pas de problème.
Mais en même temps...
Il était beaucoup plus agressif. Moi, j'étais beaucoup, beaucoup plus conservateur.
Même temps, c'est ce qui fait l'équilibre du groupe aussi. Là. Puis, tu sais, je veux pas mettre ça dans votre cours, les gars, mais vous n'êtes pas les deux premiers qui n'ont pas la même opinion sur... les prévisions qui vont arriver. Là. La SCHS a été la première personne, le premier groupe avec la pandémie qui allait dire que tout allait planter, que les valeurs de propriété allaient baisser de 18%, etc. Puis le marché a explosé. T'sais, qui avait su que les vendeurs aient mis le pied sur le break, que finalement, L'inventaire serait vendu plus rapidement parce qu'il y avait beaucoup moins d'inventaire sur le marché à ce moment-là, qui a fait en sorte que ça a créé une pression sur la valeur des propriétés incroyable aussi. Là. Fait que, il y a des économistes avec Desjardins, puis ces temps-ci, moi, c'est un peu ça que j'aime regarder, là, voir c'est quoi les prévisions 2024, etc. Puis, tu sais, j'ai rencontré justement un forum en novembre dernier avec Desjardins, puis l'économiste de Desjardins, c'est Monsieur Jean de mémoire. J'avais vraiment aimé sa perspective. Il vraiment donnait des bons points par rapport à ça. Puis, tu sais, lui mentionne encore quelque chose. La RBC mentionne quelque chose différente. La Banque du Canada mentionne quelque chose différente. On a toute notre opinion là-dedans. Puis c'est toutes nos two cents, mais c'est pas évident non plus là.
Ah non, puis c'est... On n'est pas des professionnels. Là. On passe pas 40 heures par semaine à étudier le marché comme ils le font non plus. Là. C'est...
Puis tu sais, il y a eu un ralentissement sur la construction neuve. On le vit actuellement.
Oui.
Puis tu sais, tu dois le sentir dans des projets. Il y a peut-être moins de projets dans les cartons. Il y a des projets d'envergure qui se font quand même, mais tu sais, peut-être moins de listes d'attente qu'il y a déjà eu
ben,
antérieurement.
Oui, puis on est vraiment les deux côtés. Là, on joue des deux côtés là, du terrain parce que du côté entrepreneur général, on a besoin de sous-traitants pour faire nos projets. Là, honnêtement, ça a été plus dur dans les dernières années. Là,
est-ce que vous avez le sentiment que les sous-traitants ou la main-d'œuvre est un petit peu plus disponible?
Oui.
Oui, c'est ça.
C'est pas juste un sentiment, c'est confirmé. Ouais.
Ouais. Vous faites, avant, c'était plus. C'est toi qui talonnes le fournisseur, puis là, j'imagine que c'est un peu plus l'inverse. Là,
Exactement. Le balancier, là, le pouvoir revient au client, on va dire ça comme
c'est
ça.
C'est un peu ça, je pense que ça a fait la hausse des taux, ça a ramené un peu tout sur la norme. Là,
Oui, il y a une période pas le fun, par contre. Là, Jean-François, tu le mentionnais, là, quand. Tout le monde s'est affolé, les prix se sont mis à augmenter. Là. Ça, c'était pas drôle. Là. Même en construction, là, tu avais beau faire un budget, mais...
ça explosait tout le temps. Là.
T'as beau compter la job de la meilleure façon possible, c'est le prix que le sous-traitant qui est disponible est prêt à te faire que tu vas payer, là, en voulant dire.
100% là, parce que sinon, ton projet avance pas. Puis, tu sais, on va se le dire aussi, les gens ont été sur-sollicités pour des projets. Fait que là, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'eux autres manquaient de main-d'œuvre. Fait que là, pour s'assurer d'avoir des projets, ben, ils étaient comme, écoute, moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mes coûts sur mes soumissions pour faire en sorte que, de un, je vais limiter le nombre de projets que je vais avoir, mais en limitant le nombre de projets que je vais avoir, je vais être aussi plus rentable sur mes projets. Mais au-delà de ça, ils se sont fait prendre à leur jeu parce qu'il n'y en avait pas de disponible. Fait que là, tout le monde a fait la même stratégie, ce qui faisait en sorte que tout le monde avait augmenté leurs coûts. Fait que tout le monde était plus ou moins disponible. Fait que là, tu sais, ils se ramassaient avec des cartons de commandes qui étaient comme vraiment, vraiment grand. Fait qu'on l'a vécu aussi avec les sous-traitants. Puis, tu sais, ils doivent avoir réajusté un peu le...
Ben là les sous-traitants cherchent beaucoup plus d'ouvrages. En fait, on revient un peu à l'équilibre, ouais. Je crois, puis c'est une bonne chose. Par contre, je ne crois pas que ça va durer très longtemps. Il y a un ralentissement, là, tu sais. Les programmes que les SCHL là, ont mis en place là, dans les deux dernières années, ça a vraiment été une bouée de sauvetage. Il y a beaucoup de projets qui vivent grâce à ça ou des acquisitions, Michael, tu le sais, tu le fais encore aujourd'hui. Là, tu me parlais d'une autre acquisition. Là, c'est, sans le programme de la SCHL, là, je pense pas que ce serait possible avec les conditions du marché. Là.
Oui, c'est sûr que beaucoup d'acquisitions, je pense, se font par le programme APHLX, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que ça ne durera pas longtemps?
L'accalmie parce que on en parlait justement la semaine passée ensemble, là, le coût des fonds est en train de rediminuer, même si le taux directeur n'a pas diminué. Fait que j'ai le terme anglais, affordability
la disponibilité.
Ouais, la possibilité.
L'accessibilité.
L'accessibilité.
Exact.
Merci. Non, c'est correct.
J'étais dans mon dictionnaire, Larousse a changé traduction anglais-français. Mais définitivement, là, que l'accessibilité puis le pouvoir d'achat va redevenir intéressant. Par contre, le programme de la PHLEC n'aura pas le choix d'être encore en place, selon moi, là, pour plusieurs années, là, parce que, tu sais, les 50 ans, puis, tu sais, je veux pas être pessimiste dans cette optique-là, mais, tu sais, la SCHL vient d'ouvrir un programme qui permet d'étirer tellement l'amortissement jusqu'à du 50 ans.
Ouais.
Ben, tu sais, tantôt, pour ramener ça à du 40, là, il va falloir au moins attendre 10 ans de toute façon, là, tu sais, pour pouvoir ramener ça à du 40. Fait que, tu sais, il y a des concepts monétaires qu'il va falloir qu'ils viennent se mettre en place. Peut-être des gouvernements qui devront changer aussi pour changer cette perspective-là aussi. Puis, écoute, tu sais, je pense que la vision du marché, on peut en parler de long en large. On a toutes nos opinions. Puis c'est, comme je disais tantôt, c'est chacun nos two cents, là, tu sais, dans le sens qu'on fait de notre mieux dans nos discussions par rapport à tout ça, mais on a toute une interprétation différente aussi. Là. T'sais, dans le courtage immobilier, actuellement, quand vous parlez avec des courtiers immobiliers, puis selon à qui vous parlez, il y en a qui vont vous dire que le marché immobilier est extraordinaire, puis il y en a qui vont trouver que le marché immobilier est vraiment tough. La réalité, c'est que le marché immobilier est tough pour 80% des courtiers immobiliers. Il est vraiment extraordinaire pour seulement 20% des courtiers immobiliers, qui étaient les mêmes 20% pendant, avant la pandémie, puis vous l'avez 10 ans, là. Tu sais, dans le fond, tous les courtiers qui roulent continuent à rouler, il y a juste leur méthode de travail, il y a juste leur façon de faire, puis c'est eux qui mettent, tu sais, l'épaule à la roue pour que ça fonctionne versus d'autres qui peuvent attendre des résultats. Fait que c'est la même chose en construction, c'est la même chose pour l'ensemble de qu'est-ce qui se passe, puis il y aura toujours une opportunité pour les gens attentifs.
Ben c'est ça, tu sais, la réalité, c'est que dans tous les marchés, que ça soit haussier et baissier, que ça soit des taux élevés ou bas, il y a des opportunités pour le marché dans lequel tu te trouves. Donc, tu sais, tu fais juste continuer à regarder les opportunités, puis faut juste qu'au moment où tu fais ton acquisition, quoi que ce soit, ton projet, mais ça soit une bonne opportunité, tu sais. Fait que je pense que dans tous les marchés, il y en a.
Puis tu sais, l'opportunité n'est pas la même pour chacun de nous. Tu sais, nos rendements sont pas les mêmes. Tu sais, notre niveau, au niveau du risque, c'est pas le même non plus. Tu sais, fait que il y en a des fois qui vont avoir une rentabilité moindre, mais de par la localisation, sont prêts à accepter cette situation-là. Puis il y en a d'autres que c'est, écoute, moi, c'est mes ratios de mon chiffrier 100%, sinon j'achète pas. Puis c'est correct aussi, là, tu sais, il faut juste se respecter aussi dans chacune de nos situations. Puis juste avant qu'on finisse, là, moi, j'aime ça savoir ces éléments-là. J'aimerais ça que tu me dises, tu sais, de plus en plus, la rentabilité d'un projet, une construction neuve, c'est difficile d'arriver à des résultats qui font du sens. Puis, tu sais, d'avoir un cash-out, là, c'est quasi impossible. Il y a toujours de l'argent qui va rester dans le neuf ou tout près, là. Tu sais, c'est comme, oui, il va y avoir certains projets qu'on va laisser de la, qui on va pouvoir sortir du projet, mais il y en a très peu, majoritairement, qu'on va pouvoir le faire. Mais une chose qui est quand même importante, là, j'aimerais ça que tu puisses me dire, tu sais, quel conseil ou quelle erreur qu'on devrait éviter, là, tu sais, que tu vois le plus régulièrement dans l'ensemble des projets, l'accompagnement, dans les analyses, dans qu'est-ce que tu fais, parce que il doit avoir énormément de dépassements de coûts, puis des fois, des promoteurs qui n'ont pas prévu ces dépassements de coûts-là. Mais tu sais, quand toi, à Fondation, le gars n'a pas calculé correctement son dépassement de coûts, puis que ça fait en sorte que tu n'es pas payé, là, mais tu sais, ça se peut que ça retarde le chantier pour d'autres affaires aussi, là. Fait que c'est quoi les erreurs à éviter?
Avec les 10 dernières années de construction, là, la plus grande erreur, c'est de débuter un projet si on n'est pas prêt. Fait que la planification, c'est la clé du succès. Je prêche un peu pour ma paroisse, là, la préfabrication est grandement reliée avec la planification. C'est un type de construction qu'on planifie beaucoup d'avance, mais pas juste pour la structure, mais vraiment pour tout. Faut être prêt, faut être planifié. On se lève pas un matin et on se dit, hey, demain, je vais me faire une bâtisse de 5 étages, puis je creuse ça dans un mois, c'est impossible. Puis il y a beaucoup de monde qui débute des projets avec des plans, ce qu'on appelle fast track, fait que des plans qui sont en train de se faire au même moment que ça travaille au chantier. Ça, c'est la pire erreur à éviter, selon moi.
Quand même. Puis tu sais, surtout aussi, tout ce qui est d'analyse, là, rentabilité, etc., puis de se maintenir à jour en cours de projet, là, pas juste un peu comme des entreprises. Moi, en tout cas, moi, mon entreprise, quand j'ai commencé comme courtier immobilier, c'est comme ça que je le gérais, là. C'est que je rencontrais mon comptable, puis je le rencontrais un an plus tard, puis j'étais comme, pis, comment ça a été, là? J'avais aucun checkpoint, là. Tu sais, c'est comme, j'avais aucun checkpoint, j'avais aucun KPI, j'avais aucune façon de faire. Fait que, tu sais, de suivre en cours de projet, on est-tu on track ou off track, puis tu sais, de pouvoir se réajuster, là. Ça, c'est, selon moi, un truc vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Puis Jean-Simon, écoute, je pense qu'on pourrait parler vraiment, vraiment long. Une chose qui m'est venue en tête juste avant de finir, pour le préfab, demain matin, j'ai un projet qui veut débuter en septembre. À quel moment que je dois te contacter? Parce que, tu sais, les plans sont pas finalisés. Les plans vont arriver, par exemple, en mai. Ben là, tu sais, le délai est court entre mai puis septembre. C'est quoi les délais moyens qu'on a besoin pour pouvoir livrer?
C'est certain qu'on doit être impliqué dès le départ. Parce que le projet doit être réfléchi, doit être pensé, doit être designé avec ce système-là.
Avant même la conception des plans, donc?
Avec l'architecte.
Il peut y avoir les premières étapes de débuter, mais si on a des plans terminés pour construction,
Il va falloir
revenir en arrière. On repart pas de zéro, mais il faut revenir en arrière puis réadapter des choses. Puis pour être le plus efficace possible, il faut qu'on soit dans l'équipe de conception pratiquement dès le début pour gagner le plus d'efficacité possible.
Il y a un peu un minimum, là, ce que vous allez faire en termes d'envergure de projet aussi.
Ben, c'est certain, mais même avec du béton coulé en place, on fait pas un 4 logements. Là, on en parlait l'autre fois, là, mais on va commencer à être considéré dans du 4 étages et plus.
Oui, c'est ça, parce que tu sais, bien qu'à un moment donné, il y a une rentabilité qu'il faut qu'il soit au rendez-vous. Fait que tu sais, déjà qu'un 4 logements, c'est difficile à arriver, mais tu sais, ça va être difficile de pouvoir pousser encore plus loin par rapport à ça. Écoute, Jean-Simon, je te remercie d'avoir été présent avec nous. C'est vraiment intéressant. Moi, c'est sûr que ça va être des appels que je vais faire. On va te mettre dans notre liste de favoris encore d'invités, de questionnements, de rencontres, de discussions, c'est sûr et certain. Mais nos auditeurs qui aimeraient communiquer avec toi, de quelle façon ils peuvent le faire?
Par téléphone, 418-931-1144 ou directement là, sur notre site Hectare Construction. C'est possible aussi. Okay. Hectare comme l'unité de mesure, là, j'aime le préciser. Là, on ne fait pas de pain à la viande comme certains ont pu penser. c'est déjà arrivé. Là, on l'a vu décrit de toutes les façons, mais c'est vraiment HCTRE comme l'unité de mesure.
C'est quand même très cool. Merci beaucoup, Jean-Simon, d'avoir été présent. Merci, Michael, d'avoir été présent aussi. Merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.